avec Mounouera au Salon d'Angoulême 2010 à propos de le signe de la Lune. Bonjour.
Bonjour.
On vous connaissait bien pour Merlin, Jambon et Tartine, qui a eu beaucoup de succès et qui a beaucoup de fans. Mais cette année, il y a un album qui est d'ailleurs sélectionné sur le Festival d'Angoulême, qui s'appelle Le Signe de la Lune, que vous avez co-scénarisé et dessiné. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est un album assez différent justement de mes albums précédents. Qui sont très rigolotes, très femmes, très drôles. Celui-ci, c'est plutôt obscur et sombre. Il raconte un conte un peu fantastique, un peu noir parfois, mais j'espère qu'il est très humain et qu'il puisse toucher les lecteurs, soit un jeune fille qui, suite à un drame, se referme en elle-même et qui guérissait par l'amour de cette sorte de neurosis. C'est pas comment raconter une histoire, c'est un gros pavé de 130 pages, donc du coup c'est difficile à résumer dans quelques mots. C'est un bon bouquin.
Comment est né ce désir de sortir un album comme ça? Parce que c'est vraiment un album qui est beau, qui est particulier. Ça, c'est vrai que c'est une histoire qui est dense, avec un dessin qui a un choix de couleurs vraiment particulier. Et qui est une histoire qui exploite les contes traditionnels d'une façon effectivement obscure, mais où il reste quand même de l'espoir dans cet album.
Cet album naît de l'envie de faire cette histoire que mon ami Enrique Bonnet, l'éco-scénariste, avait déjà travaillé il y a 10 ans. Il avait fait une première version de cette histoire dans seulement 20 et quelques pages, qui m'était toujours très touchante, et où j'ai vogé un potentiel énorme et dramatique pour la raconter. J'ai convaincu Enrique, qui au départ était assez réticent, pour vraiment reprendre cette histoire après 10 ans. Il a retravaillé sur plusieurs optiques, sur plusieurs points de vue différents, l'a élargir, la faire grandir, mourir. Et moi, de ma part, j'ai essayé à trouver un système, un graphique, une consonance avec l'atmosphère de cet univers particulier. Mes outils traditionnels, mes outils habituels n'étaient pas suffisants pour transcrire la densité de cette histoire en particulier. Donc il m'a fallu chercher de nouveaux matos, et d'où cette nouvelle conception graphique, quoi.
Comment vous l'avez créé justement, parce que c'est pas vraiment du noir et blanc, c'est pas une teinte bleue non plus véritablement. Vous avez travaillé la couleur comment?
Ouais, au départ j'ai fait les dessins comme d'habitude, après j'ai fait un lavis d'aquarelle et finalement j'ai un peu retouché l'ordinateur. L'ordinateur c'est un outil formidable, vraiment formidable, mais qui ne m'intéresse pas en soi-même en tant qu'outil. Donc, en tant qu'appui pour des autres techniques, ça me semble exceptionnel. Et dans ces cas-ci, il m'a permis vraiment de retoucher les aquarelles pour vraiment faire de la post-production, finalement, d'une façon assez intuitive et intéressante.
Quel est votre conte préféré?
Les Chaperons Rouges, tant qu'on y est. J'aime bien les Chaperons Rouges, justement. Cette histoire, elle parle un peu d'une façon tordue de l'histoire du Chaperon Rouge. Le Chaperon Rouge, dans la tradition occidentale, c'est une histoire de maturité aussi. C'est l'histoire d'un fil qui devient en femme. Le Chaperon Rouge, forcément, la couleur rouge est forcément en relation avec la sang, avec du sang. Donc, cette histoire parle justement d'un fil qui va devenir en femme, dont on les demande de ne pas sortir du chemin marqué parce qu'il y a des loups autour, donc il faut faire attention. Avec les jets de la lune, on a utilisé aussi les chaperons rouges pour raconter notre histoire de ces personnages qui est obsédé à Artemis avec la lune, qui c'est en soi-même aussi un symbole du changement, de la féminité, de tout ce qui se développe, etc. Donc qui est très en relation avec l'idée de la croissance, de la maturité, quoi, de devenir mature. C'est une histoire de maturité. Donc voilà, c'est en sortie des versions bizarres, en quelque sorte, du Chaperon Rouge.
Comment vous avez travaillé le caractère de chaque personnage? parce que tous sont extrêmement attachants, que ce soit Brindy, que ce soit Pif, ils ont tous quelque chose qui marque.
Justement parce qu'on a travaillé dans cette histoire pendant si longtemps, ça nous a mis 10 ans à Enrique et moi à parler à chaque fois qu'on s'est posé, on parlait de l'histoire, on a fini pour connaître par cœur les personnages, mais d'une façon extrême, on les connaît à mort. Et on sympathise avec tous, même avec les méchants Ruffo, on sympathise, on les comprend, et on s'explique pourquoi il est si connard, mais bon, on comprend presque. Donc c'est une question de connaître les personnages, ce qu'il y a dans cette vie éventuellement.
Je voulais savoir si y avait vraiment des légendes rattachées aux puits qui sont des légendes espagnoles.
Pas seulement espagnoles, disons que c'est vraiment anthropologiquement, c'est des sujets qui sont partout dans la culture occidentale. Les puits ont toujours été les cachettes des monstres, parce qu'il fallait que les enfants ne rapprochent pas des puits, c'était dangereux. Donc on leur racontait des histoires de monstres. Fais attention au puits parce qu'il y a un monstre dedans qui va te prendre, etc. etc. Donc n'approche pas du puits. Donc ça génère une littérature orale, une littérature mythique qui existe partout, pas seulement en Espagne, en France, en Allemagne, en Angleterre. Et on a utilisé tout ça dans cette histoire. Les monstres des puits, effectivement, ça existe toujours. Et si tu vas dans la campagne, même française, des très petits villages, ils te raconteront des histoires de monstres des puits facilement. Ou des fantasmes dans les puits, tu vois, ou des terreurs qui sont associées aux puits. Et maintenant, d'un point de vue psychoanalytique, parce que cette histoire, on l'a pris aussi sur les plans psychoanalytiques pour la travailler, c'est une histoire, comme on a dit, de maturité sexuelle, finalement, et personnelle. Donc les puits, ça représente un peu une pénétration dans la terre. Donc forcément, ça fait peur aux enfants et ça fait peur à Artemis. Il faut supérer tout ça et c'est pour ça qu'à côté du puits, c'est où on finit avec les personnages, les méchants de l'histoire. Ils finissent à côté du puits, à côté de la tour, qui a aussi des connotations de ces côtés-là.
Après avoir fait une œuvre comme ça, vous avez envie de continuer dans cette optique-là ou plutôt de reprendre un côté plus léger, plus album pour enfants en fait?
Moi, j'ai, la suivante chose que j'ai fait, c'est justement très très légère, c'est rigolote, presque con, non, définitivement con, et donc très bien. Parce que moi, je pense qu'une des forces de la bande dessinée, c'est justement la extrême créativité qu'elle te permet d'avoir. On n'est pas dans le cinéma, ou dans la télé, ou le théâtre, où tu as besoin des moyens pour vraiment monter ton idée. Ici, tu as besoin d'un papier, un crayon, un ordinateur et l'envie de faire quelque chose à la raconteur. Donc moi, j'espère pouvoir sauter de les histoires plus drôles, les plus dramatiques, les histoires de fantasy ou d'aventure, mais donner ce privilège et profiter de cette science que nous donne la bande dessinée, quoi.
Justement, dans les projets, qu'est-ce qu'il y a en ce moment?
Bah, tout de suite, il y a une nouvelle série dans la veine des Merlin, justement, ce que j'appelle du Monty Python pour enfants, qui sort chez Largo en avril, qui s'appelle Walter. Il va avoir au minimum 3 albums, donc je suis en train de finir les 3e. Et sinon, il y a plein de projets à côté. J'aime bien avoir plusieurs choses très différentes à faire tous les temps. Ça permet de garder un peu de santé, parce que sinon, tu deviens obsédé par ce que tu es en train de faire, et ça, c'est malsain, par définition.
Est-ce que vous travaillez en musique?
Si, j'écoute de la musique tout le temps. Pour Le Signe de la Lune, j'écoutais beaucoup d'opéra, et ça se voit, je pense, dans la façon à raconter l'histoire. Il y a des moments où il y a tout l'orchestre qui fait « et alors j'ai fait un grand case, double passe pour faire pareil. Ou de la musique impressionniste, générer des boussies, des choses comme ça. J'écoute tout le temps, des chansons du cinéma. C'est aussi assez inspirateur. Plein de choses, ouais. Pour votre public, je dirais que j'écoute les gothiques et les métals tous les temps.
On a une question pour terminer nos interviews. Est-ce que vous préféreriez avoir soit la vie éternelle, soit le don d'ubiquité?
Bah, la vie éternelle, parce qu'elle me permettrait d'aller partout. Je ne serais pas pressé pour être partout. Tu peux être partout, mais dans la longueur.
Un mot pour conclure?
Merci, ouvrez les oreilles. Et voilà. Merci pour l'interview.
Merci.